Les cours du Collège de France, Jean-Marie Tarascon, chaire chimie du solide et énergie.
Nous, bonjour à tous, et c'est un grand plaisir d'être parmi vous d'abord, puis de revoir des visages bien connus pour finalement commencer ces cours 2024. Alors ces cours 2024 vont porter sur une thématique qui est assez, qui soulève l'engouement dans la recherche sur les batteries, qui est tout simplement la batterie tout solide. Alors cette batterie tout solide, eh bien, elle est bien sûr très intéressante vis à part des industriels, et vous avez souvent des articles dans les journaux sur les bienfaits de cette batterie tout solide. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est finalement, durant ces cours, c'est essayer de vous dire finalement de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe, quelle est la vérité derrière tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce cours « La batterie tout solide entre idéalisme et pragmatisme ». Et vous verrez que ces mots auront du poids long du cours. Alors le menu que je vous ai mis au programme cette année est le suivant. C'est-à-dire que je vais commencer par faire peut-être l'histoire de ces batteries tout solides et de vous montrer que cette nouveauté n'en est pas une finalement, puisqu'on avait des batteries tout solides il y a de cela 10 ou 20 ans, certainement pas aussi performantes qu'aujourd'hui, mais on verra. Et ensuite, on va tout simplement passer au cœur de cet accumulateur, qui est finalement le conducteur ionique. Et là, je passerai pas mal de temps à vous décrire ces différents conducteurs ioniques, ces différentes familles, et vous montrer comment celles-ci fonctionnent. Et bien sûr, dans toute batterie, il faut une positive et une négative. On regardera ce que c'est, et bien sûr, le point le plus important, c'est qu'on va avoir faire des interfaces, et les interfaces vont être vraiment le point limitant. Et ensuite, si le temps me le permet, je terminerai sur les batteries polymères ou autres. Et bien sûr, ces cours vont être suivis, je dirais, de séminaires spécifiques. Le premier aujourd'hui traitera des aspects mécaniques, qui sont très importants dans ces matériaux. Ensuite, eh bien, ces batteries tout solides, il faut les caractériser. C'est la raison pour laquelle vous aurez un orateur qui vous parlera des caractérisations optiques de ces matériaux. Et enfin, on aura, je dirais, une variété d'orateurs sur les matériaux par eux-mêmes, et notamment les matériaux grâce aux techniques de machine learning, comment on peut avancer ces découvertes. Et enfin, on terminera, je dirais, par une ouverture à la société avec deux orateurs qui vous diront ce qu'il y en est finalement de l'hypermobilité et également un autre qui viendra vous parler finalement comment on peut transférer de la recherche à l'industrie et quels sont les verrous pour réussir ou pour échouer, peut-être, j'en sais rien. On verra. D'où voilà. Alors tout d'abord, pour montrer finalement l'aspect de ces systèmes tout solides ou des batteries en général, je vais tout simplement ici vous rappeler le marché des batteries et de quoi on parle. Eh bien, comme vous pouvez voir ici, on est en train de parler de chiffres relativement conséquents. Lorsque vous voyez un marché qui augmente, je dirais, au régime de 10 à 15% par an, pour atteindre dans les années 2030 ou 2040 dans les 60 millions directement de véhicules électriques. Alors bien sûr, bien cela va entraîner des répercussions au niveau de la fabrication de ces systèmes, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, aujourd'hui, beaucoup d'industriels investissent, je dirais, massivement dans ces technologies. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il y aura plus de 200 milliards investis d'ici, je dirais, 2030 pour ces batteries lithium-ion et toutes sortes de batteries. Alors cela, eh bien, ça va se faire grâce à, je dirais, l'implantation des gigafactories qui sont en train de pousser comme des champignons en Europe aujourd'hui, avec notamment 4 gigafactories au nord de la France, avec Envision, Vercors, ACC et Prologion. Alors tout cela, eh bien, va être relié également dans la volonté, si je peux dire, dans la volonté désespérée de l'Europe de finalement d'atteindre une souveraineté énergétique. Et le but, c'est qu'en 2030, l'Europe puisse participer à 19% finalement du marché mondial des batteries. Alors tout ça, en termes de souveraineté, c'est très intéressant, mais il faut quand même voir qu'à ce jour, eh bien, on va tout simplement dans ce cas où on importe, eh bien, 97% des matériaux et, je dirais, presque autant des machines d'assemblage de ces technologies. Donc, comme quoi, vous voyez que la souveraineté n'est pas encore acquise. Et quant au niveau des matériaux, eh bien, là aussi, il faut faire attention au niveau des ressources. Ici, on regarde tout simplement le cas des matériaux qu'on utilise aujourd'hui, qui sont les lamellaires, lithium, nickel, cobalt. Et si on regarde les projections dans le futur, ici, vous avez des histogrammes qui vous montrent finalement le nombre de tonnes qui sera requise pour automatiquement les demandes des batteries dont je vous ai mentionné auparavant. Et en rouge, vous avez finalement la production totale de ces matériaux qui sera directement, je dirais, développée ou extrait ou fourni dans 2030. Et vous apercevez que dans le cas du lithium, eh bien, tout le lithium produit sera tout simplement utilisé dans les batteries en 2030. Quant au cobalt, c'est guère mieux. Et finalement, il n'y a que le nickel qui, pour aujourd'hui, survit encore. Donc, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, il faudra, je dirais, faire penser au raffinage, penser à l'extraction, puisque, comme je vous le montre ici, 95% de la production mondiale de lithium sera utilisée dans les années 2030. Alors cela, eh bien, va entraîner finalement des choix au niveau des matériaux. Ces choix au niveau des matériaux, ils vont dépendre bien sûr du marché, des ressources et des coûts. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme je l'ai mentionné d'ailleurs dans le cours de l'an dernier, où on est en train de voir un déplacement des matériaux lamellaires, qui sont les fameux oxydes de cobalt, de nickel et de manganèse, avec une, je dirais, un retour très fort en puissance des phases lithium FePO4 qui sont, je dirais, beaucoup plus vertueuses vis-à-vis de l'environnement. Et vous avez finalement les prévisions de production qui devraient passer de 37 à 47% de LFP dans la plupart véhicules, notamment bus, dans les années, je dirais, 2030. D'où, associé également à cette course vers des batteries vertes, eh bien, il y a également aussi l'arrivée d'une technologie alternative dont on a mentionné brièvement l'an dernier, qui est la technologie sodium-ion, avec la compagnie française Tiamat, qui est la première à avoir mis ses batteries sur le marché dans les visseuses que vous pouvez trouver chez Leroy Merlin. Et là aussi, eh bien, il y a des projets, je dirais, de développement, puisque l'implantation d'une méga-factory est implantée dans le nord de la France, pas loin d'Amiens, comme vous le voyez ici. Mais là aussi, la concurrence va être rude, car il y a finalement beaucoup de compétiteurs, notamment en Asie, et un des plus, je dirais, importants, qui est CATL, qui est le plus important fabricant de batteries au monde. D'où, finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le cas de ces batteries lithium-ion? Eh bien, on avait vu l'an dernier la plupart de ces phases, donc ceux qui ont suivi les cours ne devaient pas être étranges à certaines de ces phases, avec les phases lamellaires, qui sont lithium, NMC, 811, 622, et ainsi de suite. Et vous avez également le composé LFP, qui lui a une densité d'énergie plus faible, mais pour des raisons de coût et d'éco-compatibilité, est beaucoup plus intéressant. Et vous avez la technologie sodium-ion, qui, comme vous le voyez ici, ne sera jamais en compétition au niveau autonomie, au niveau capacité avec le lithium-ion. Par contre, il y a des avantages au niveau puissance. Mais la demande des industriels, eh bien, est beaucoup plus élevée, puisqu'on veut atteindre des densités d'énergie de 500 watts par kilo, voire 800 watts par litre. Alors pour cela, bien sûr, il y a beaucoup de recherches au monde qui se font dans ce secteur. Et vous voyez ici la ligne de progression des avancées depuis le début, 1990, la technologie Sony lithium-ion, avec à l'époque des densités d'énergie de 500 watts par kilo, et vous voyez la progression. Et ces deux ou trois dernières années, eh bien, on s'aperçoit qu'on est en train de passer, ou de vouloir passer, au-dessus des 300 watts par kilo. Alors, tous ces rapports récents, eh bien, sont des rapports qui vont avoir faire à ce qu'on appelle un nouveau concept, même si ce n'est même pas un nouveau concept, c'est des batteries sans anode, c'est-à-dire des batteries dans lesquelles on va retirer le lithium et on va faire simplement un électrodépôt de lithium et un retrait lors de la charge et la décharge. Ensuite, il y a un papier qui est sorti il y a un an seulement, un papier chinois de Cully, qui, dans ce cas, prétend avoir atteint tout simplement des densités d'énergie de 600 watts par kilo. Alors cela a été fait certainement avec, enfin, c'est mentionné, avec l'utilisation du lithium métal, mais là aussi, une fois de plus, il faut faire attention de tous les rapports que vous avez dans la littérature, car ce système n'a fait que deux cycles, d'où on peut rapporter de grandes valeurs, mais on n'est pas. Mais cela est important, car on y reviendra dans ce cours, vous verrez que, même dans le cas du tout solide, il y a beaucoup d'activités pour préparer ces technologies sans anode, c'est-à-dire sans lithium. Alors bien sûr, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ça, c'est des alternatives, mais l'alternative qui est certainement la plus intéressante, la plus utilisée aujourd'hui, eh bien, c'est cette fameuse technologie tout solide lithium. Alors cette technologie tout solide lithium, c'est quoi et pourquoi les avantages et pourquoi soulève-t-elle tant d'engouement? Alors la technologie lithium tout solide, je dirais, elle ne va pas se différencier beaucoup du lithium-ion. La seule différence essentielle va être qu'on va remplacer dans ce cas bien l'électrolyte liquide, qui est un électrolyte organique, comme indiqué ici, par un électrolyte solide, qui sera un conducteur ionique. Et en faisant cela, bien sûr, vous avez des avantages au niveau sécurité, puisque vous n'avez plus maintenant de solvant organique eh bien, dans ce milieu. Et ensuite, vous avez également des avantages au niveau densité d'énergie, que ce soit gravimétrique ou volumétrique. Mais cela est à noter que ces avantages n'existent que si vraiment on remplace l'électronégatif par du lithium métallique, sans quoi ça ne sert strictement à rien de passer tout simplement à une technologie lithium-ion solide, si ce n'est, comme ça semblerait être prouvé, un avantage peut-être au niveau de la puissance, et on reviendra sur cela par la suite. Donc voilà cette technologie solide, ce que c'est. Alors bien sûr, rappelez-vous, n'a qu'un sens que si on arrive à utiliser une électrode négative de lithium, ou bien sûr, comme je l'ai mentionné, une technologie dans laquelle on n'a même plus d'électrode. Alors les avantages, c'est au niveau de l'ancienne énergie, de la conduction, car dans ce cas, bien, puisqu'on n'a qu'un seul ion, eh bien, on a un nombre de transfert de 1, ce qui est, je dirais, une condition relativement importante pour la puissance. On a de faibles conductivités électriques, dans ce cas, on va limiter le taux des charges, et on sera stable en température, on aura des améliorations au niveau sécurité. Par contre, eh bien, la stabilité thermodynamique de l'électrolyte va être un problème majeur, et on verra qu'elle est relativement limitée. Il va y avoir des propriétés chimio-mécaniques beaucoup plus importantes que dans le cas du liquide, et l'orateur suivant vous le montrera pourquoi. Et bien sûr, ce qui va être, je dirais, notre cauchemar, c'est le problème d'interface. Et là, eh bien, il va falloir les résoudre, et c'est là où la difficulté va être. Alors, effectivement, au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a eu beaucoup d'espoir sur ces batteries tout solides, mais toutes ces batteries tout solides eh bien, reposent sur ces fameux conducteurs ioniques. Et ces conducteurs ioniques, eh bien, on va remonter finalement à Michael Faraday, qui a été le premier à découvrir le conducteur ionique. Il a fait cela tout simplement en prenant une pile volta dans laquelle il a, comme vous pouvez voir ici, inséré un bloc de difluorure de plomb. Et lorsqu'il a chauffé son bloc, il s'est aperçu que le courant passait. Et il a tout simplement déduit que ce composé eh bien, était un conducteur ionique à haute température. Et à partir de cela, eh bien, beaucoup de recherches durant les prochaines dizaines d'années ont été poursuivies. Et vous voyez ici différentes sortes de matériaux, dont certains vous avez entendu parler. Vous avez par exemple l'yttrium dopé ou la zircone dopée à l'yttrium qui est utilisée dans les piles à combustible. Vous avez les halogénures d'argent ou de lithium, qui sont des conducteurs ioniques relativement intéressants, et on y reviendra plus tard. Vous avez l'alumine bêta, vous avez ici ces composés avec l'argent et le rubidium, et même ici, cette phase, qu'on va regarder par la suite, qui est certainement celle qui a le conducteur ionique le plus important aujourd'hui, où on a 350 millisiemens par centimètre moins 1. Et ce qui est intéressant de montrer, eh bien, c'est que des technologies tout solides ont été développées. Alors il y a tout d'abord, là, tout simplement, la pile lithium, lithium iodure, iode. Alors attention, c'est la pile, ce n'est pas une batterie. Mais vous avez tout simplement les batteries sodium-soufre qui travaillent à des températures de 200 à 300 degrés avec, dans ce cas, bien du sodium fondu. Et enfin, vous avez cette technologie qui sont basées, je vais y revenir, sur des électrodes ou des séparateurs des conducteurs ioniques indiqués ici. Alors ces conducteurs ioniques, c'est exactement quoi ? Eh bien, ce n'est rien d'autre que des structures cristallographiques dans lesquelles vous avez, je dirais, un positionnement des atomes qui fait en sorte qu'un des ions bouge très rapidement. Et vous avez ici un conducteur ionique qui a certainement été le plus étudié, qui est l'iodure d'argent, où vous avez dans ce cas, eh bien, à basse température, une structure de type Worksheet, dans laquelle il y a une conduction ionique relativement faible. Mais ensuite, eh bien, si vous chauffez à 146 degrés, dans ce cas, vous avez la transition de phase, un peu ce qu'avait directement Michael Faraday avait obtenu dans F2PB, où le matériau devient très conducteur. Alors on peut dans ce cas, eh bien, on a des structures de type BCC, et on peut dans ce cas également eh bien, préparer des phases avec le rubidium, comme j'ai mentionné, et également cette fameuse phase indiquée ici, qui est la phase RB4, CU10, I7, CL12, ou, dans ce cas, on a une structure cubique dans laquelle eh bien, les cuivres sont entourés, sont dans des tétraèdres, entourés d'un mélange d'iode et de chlore, alors que, dans ce cas, eh bien, le rubidium est seulement entouré de chlore. Et on a, dans ce cas, une conductivité de 340 millisiemens par centimètre. D'où ces matériaux, eh bien, ils ont été tout simplement utilisés en batterie tout solide. Et vous allez voir cette diapositive qui est intéressante, du moins pour tous ceux qui travaillent dans le cas eh bien, des batteries tout solides, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une grande nouveauté. Alors ce qui est intéressant aussi, il n'y a pas une grande nouveauté, et notez ici cette personne, Cano. Et Cano va revenir dans 10 ans. C'est-à-dire que c'est une personne qui avait étudié les systèmes depuis longtemps. Et qu'est-ce que c'est dans ce cas? Si vous regardez le système, eh bien dans ce cas, on va utiliser ce conducteur ionique, cette phase, avec du cuivre comme électron négatif, et on va utiliser dans ce cas un matériau lamellaire qui peut être TIS2, ou alors vous prenez des phases de Schorel M6S8, ça marche aussi bien. Et dans ce cas, regardez déjà comment ils fabriquaient leurs électrodes positives, négatives, ainsi de suite. Vous retrouvez exactement la même façon que l'on voit aujourd'hui, avec un mélange de l'anode avec le conducteur ionique et le mélange de la cathode avec un conducteur ionique et également du carbone. Et dans ce cas, eh bien, ils obtenaient des résultats comme indiqué ici. Alors les potentiels, bien sûr, on travaille en fonction du cuivre et non en fonction du lithium, donc ils sont relativement plus limités. Les courants, eh bien, automatiquement, on travaille avec des courants relativement faibles, de 150 à 200 microampères. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement que même à l'époque, sur des systèmes comme ça, ils avaient obtenu des cyclages de 1400 à 1500 cycles déjà. Alors bien sûr, si on lit ces papiers, c'est intéressant parce qu'ils font deux remarques qu'on va retrouver aussi. Chaque fois qu'on fait la course de plus haut conducteur ionique, eh bien, on va avoir une très bonne conductivité, mais la plupart du temps, et la nature ne nous aide pas de ce côté-là, eh bien, ça va être au dépens, finalement, de la stabilité chimique. Et là aussi, il va y avoir l'importance des chargements morphologiques, c'est-à-dire des composantes chimio-mécaniques, sur, finalement, l'interface électrode-électrolyte. D'où ces approches étaient relativement intéressantes, mais bien sûr, il y avait de faibles densités de courant malgré qu'on ait d'excellentes tunnels en cyclage. Et on peut continuer ainsi. Voilà un autre système qui avait été développé. Celui-là, sur un système développé sur des phases à l'argent, comme indiqué ici, argent 6, I4, WO4. Vous voyez la courbe de charge et décharge électrochimique avec une fois de plus. Notez, c'est quand même ces bonnes tunnels en cyclage. Notez également, dans ce cas, eh bien, les courants. Et, regardez, pour ceux qui font du tout solide, à l'époque, ils travaillaient à 350 MPa. Aujourd'hui, eh bien, on assemble nos batteries tout solides, du moins en laboratoire, à 400 MPa. D'où, comme vous pouvez voir, je dirais, la méthodologie des tests, ainsi de suite, n'a pas beaucoup évolué. Mais également, à l'époque, eh bien, ils avaient aussi observé, et ça, c'est des travaux, je mentionne le nom une fois de plus, parce qu'il va revenir dans la suite, de Jörgen Janek, qui avait mentionné, tout simplement, ou étudié, finalement, le transfert ou l'interface entre un métal, l'argent, et le conducteur ionique, l'iodure d'argent. Et là, il avait montré que finalement, cette interface, eh bien, elle n'était pas tellement coopérative. Il pouvait y avoir des dendrites dues au fait de la diffusibilité de l'argent dans le matériau métallique. Donc là aussi, il y avait la croissance dendritique qu'on va retrouver bien plus loin dans ce cours, qui est, je dirais, un aspect, je dirais, totalement fondamental dont on se bat pour résoudre. Alors ensuite, eh bien, les conducteurs ioniques ont évolué. Ils sont plus passés maintenant, on est passé à des conducteurs ioniques polymères, et ça, c'est les travaux de Michel Armand, ou dans ce cas, dans les années 1980, ou dans ce cas, eh bien, le déplacement du lithium dans ces polymères se fait directement grâce ou est accompagné par le mouvement segmentaire des chaînes polymériques qu'on voit ici. Et ce mouvement segmentaire va créer des volumes libres qui, sous l'action d'un champ électrique, eh bien, va entraîner le déplacement, la diffusion du lithium. Et cela, eh bien, c'est à l'origine de la technologie Bolloré qui est, je dirais, utilisée aujourd'hui. Et enfin, en continuant plus, en revenant vers aujourd'hui, une autre technologie a été développée, et là aussi, je tiens à le mentionner parce que ça aura une importance lorsque vous allez voir l'évolution du tout solide aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, eh bien, on avait la technologie ion lithium, et on avait la technologie je dirais, polymère qui avait beaucoup d'avantages, mais des inconvénients qui étaient la température. Et bien à l'époque déjà, bien manque de patience, on avait tout simplement essayé de trouver des technologies intermédiaires, et c'est la fameuse technologie plastique qu'on avait développée aux États-Unis. Ça c'est important parce que vous allez voir les mêmes tendances dans le tout solide se poursuivre aujourd'hui. Alors on en est finalement maintenant dans les années 1900, 1980, 1990, on va remonter le temps et continuer sur ces batteries ou ces matériaux tout solides. Alors ce qui est intéressant, c'est que les recherches sur les conducteurs ioniques étaient, je dirais, un domaine de recherche très important en France, notamment à Montpellier et à Bordeaux, où ils travaillaient sur les matériaux fluorés, mais en couche mince. Ensuite, il y a eu des recherches, et ici je vous montre tout simplement la première batterie tout solide au lithium en couche mince qui a été développée à Eveready dans les années 1986 par Jim McQuish. Cette batterie, à l'état de couche mince, a fait plus de 10 000 cycles. Okay. Dans ce cas, bien sûr, il y avait de très fines couches de conducteurs ioniques et le problème dendrique n'avait pas lieu. Il n'y en a jamais, où il a fallu plus de 20 ans pour essayer de comprendre pourquoi il n'y avait pas de dendrite dans ces systèmes à couche mince, alors que dès qu'on passait à du massif, ça changeait l'histoire. Alors ensuite, après cet engouement, je dirais presque dans les années 1980, il y a eu une période un peu transitoire dans laquelle les recherches sur les conducteurs ioniques se sont poursuivies, avec notamment les matériaux nazicon, ou voire les lysicon. Et ensuite, il y a eu en 2010, Toyota qui a fait une annonce comme quoi ils allaient développer les batteries tout solides. Donc si vous voulez, on est passé d'un calme plat à un engouement, et un engouement qui s'est concrétisé par la découverte de Roger Cano, dont je vous ai mentionné il y a 10 ans, qui a finalement trouvé un nouveau conducteur ionique, qui est le conducteur lithium-bis germanium P2S11 ou S12, qui est un conducteur ionique, dont une conductivité de 12 millisiemens par centimètre, qui est finalement l'équivalent de, tout simplement, une solution de chlorure sodium. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est ensuite ce qui a suivi. Alors, bien sûr, Toyota, qui n'a pas peur de faire des annonces, en 2010 annoncé, en 2017, on aura certainement des batteries tout solides et on sera certainement capable de combattre avec les batteries sur la Tesla. D'où des annonces qui ont continué, beaucoup de compagnies, beaucoup d'industriels se lancent dans la course, mais à ce jour, on n'a toujours pas de batteries tout solides. Et il y a une annonce qui est très intéressante, qui est celle-ci. C'est-à-dire qu'en 2023, Toyota, une fois de plus, annonce, oui, mais on va repousser jusqu'à 2028. Et ce qui est intéressant, c'est que Seattle, dont je l'ai mentionné, un commentaire sur son CEO, vous pouvez lire ici, tout simplement, que malheureusement, le rapport de Toyota dans la production commerciale de batteries à l'état solide en 2027-28 ajoute une touche d'intrigue au drame mondial des batteries. D'où cette phrase, je crois, a une certaine importance. Et on va voir par la suite tout ce qui peut se passer. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé. Pourtant, malgré cela, de nombreux pays, je dirais même pas de nombreux, tous les pays au monde, rêvent de cette batterie tout solide, mettent des financements dans cette batterie tout solide, car finalement, effectivement, elle fait languir si on pouvait obtenir 700 watts par kilo. Et vous voyez des feuilles de route, comme ici au Japon, une fois de plus, où dans ce cas, on compte sur les batteries tout solides dans les années 2025-2026. La première serait bien sûr sur des conducteurs ioniques au soufre, des sulfures, suivis par des oxydes, et ainsi de suite. D'où, pour vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un laboratoire au monde, il n'y a pas une industrie au monde, il n'y a pas un gouvernement au monde qui ne s'intéresse pas aux batteries tout solides et qui ne subventionne pas les batteries tout solides. D'où, c'est là que ma difficulté commence. Et je ne vous en parlerai pas qu'au niveau universitaire, c'est un foisonnement complet. Et je vous présente ici, finalement, le nombre de publications dans le domaine, comment ce nombre de publications a explosé. Vous voyez qu'en 2020, on est à plus de 3000 publications par an sur le tout solide. Et si on regarde maintenant la répartition par continent, on voit qu'au niveau européen, c'est l'Europe, notamment en Europe, c'est l'Allemagne qui est en tête, et au niveau mondial, c'est tout simplement la Chine, avec les US et la Corée. D'où par conséquent, il va falloir qu'en ce cours, en 6 heures, j'essaie de résumer toute cette littérature. Tout ça va être une tâche relativement difficile, je vais essayer d'être sélectif. Mais enfin, la batterie tout solide, eh bien, je crois qu'elle est en train directement de dupliquer parfaitement le cycle d'engouement ou l'hypercycle de développement de toute une nouvelle technologie. Il y a eu la zone, je dirais, d'enthousiasme générée par Toyota, ensuite, et suivie bien sûr par toutes, je dirais, les compagnies ou de véhicules électriques. Ensuite, eh bien, il y a le retour, je dirais, à la réalité, où on s'aperçoit que finalement, oui, mais on avait le lithium il y a 20 ans, on n'a jamais su le résoudre, d'où on est passé sur le lithium-ion. Aujourd'hui, définitivement, il faut trouver les moyens, quelles sont les solutions pour finalement utiliser ce lithium métallique. Et aujourd'hui, on est finalement sur la courbe d'apprentissage. Vous avez beaucoup de spin-off, de PME qui sont montés pour tenter de se lancer dans cette aventure de développer le tout solide. Et on est à l'heure actuelle dans une phase de maturation où finalement une batterie tout solide, réelle, vous allez voir qu'elles ne sont pas toutes réelles, eh bien on ne les aura pas certainement avant 10 ou 15 ans. D'où, effectivement, comme vous pouvez voir, l'engouement, le retour à la réalité, et maintenant la maturation, et bien sûr, de la part des industriels, le manque de patience. Et le manque de patience, eh bien, fait tout simplement que maintenant, on va commencer à trouver des compromis. Voilà directement pourquoi on s'était embarqué, c'est-à-dire que faire du tout solide, avec le lithium métal, à négatif, et tout simplement l'électrolyte, la positive, tout est solide. Avec ici, une dérivative, qu'on verra par la suite, l'utilisation du silicium, et on verra pourquoi, comment, dans le cours numéro 4, je pense. Et, bien sûr, là, on commence à perdre patience, et on part directement dans les approches hybrides dont je vous ai mentionné au départ. Je vous ai mentionné la technologie Belcore, c'est une hybride entre lithium-ion et lithium polymère. Mais aujourd'hui, maintenant, on a, je dirais, l'idéal qui est finalement la technologie tout solide et le lithium-ion. Et ce qu'on va faire, on va faire des technologies tout solides dans lesquelles on va y mettre un peu de ionogel, un peu de liquide, un peu de polymère. Et la question, à la fin, on peut se poser, quelle va être la valeur ajoutée de ces approches hybrides? Et c'est là vraiment une des questions qu'on essaiera de répondre à la fin de ce cours. D'où, vous ayant montré à ce stade finalement un peu où on en est dans ce domaine, je dirais, des batteries, eh bien, maintenant, je vais passer tout simplement réellement quelle est la problématique en ce moment. Et là, lorsque vous faites une batterie tout solide, eh bien, vous avez quand même des limitations qui sont nombreuses. Tout d'abord, vous avez la nature de l'électrolyte. Il faut, on verra par la suite, il a des figures de mérite à bien respecter. Ensuite, il y a le problème d'électrode positive, où, à la différence du liquide lithium-ion, eh bien, dans ce cas, il va falloir prendre en considération les aspects chimio-mécaniques. Il y a également, et pas des moindres, et je me répéterai souvent, tout simplement, cette interface et cette croissance dendrite. Parce que là aussi, naïvement, on pensait tout simplement que si on mettait finalement un électrolyte solide, une barrière entre l'électrode négative lithium et l'électrode positive, eh bien cette barrière physique eh bien, empêcherait, je dirais, cette croissance, et ce n'est pas le cas. Et enfin, autre problème majeur, c'est sa fabrication. Pour, dans ce cas, fabriquer des batteries tout solides, il va falloir des pressions de plusieurs mégapascales, et bien sûr, ces jours-ci, on travaille beaucoup pour voir comment on peut abaisser ces pressions, et on vous montrera dans ce cours également comment on peut faire. Donc voilà, si vous voulez, illustrer quels sont les vrais problèmes que l'on a. Alors maintenant, eh bien, on va passer dans le vif du sujet où on va s'intéresser à ce fameux conducteur ionique. Alors, cette recherche sur le nouveau conducteur ionique, eh bien, quels critères? Il va nous falloir tout simplement tout d'abord des matériaux qui ont une stabilité, une fenêtre de stabilité électrochimique relativement large. Il va falloir qu'ils soient relativement stables vis-à-vis des humidités pour avoir directement la manutention plus faible. Il va falloir qu'il soit mécaniquement stable, avoir des propriétés physiques intéressantes au niveau densité, on parlera de la dureté par la suite, et enfin, une autre haute conductivité ionique et faible conductivité électrique. Donc voilà, si vous voulez, finalement, le travail qu'on en a à faire. Donc il va falloir retourner à la chimie du solide et vous essayer de comprendre quelles vont être les relations entre structure et propriété, et c'est grâce à cette compréhension qu'on va pouvoir, je dirais, dessiner d'autres conducteurs ioniques. Alors, puisqu'on va parler de conductivité ionique, laissez-moi revenir quand même un peu sur la base de cette conduction ionique. Alors, cette base de la conduction ionique, eh bien, je peux l'illustrer ici. Si je prends le cas d'un électrolyte liquide, eh bien, dans ce cas, finalement, la diffusion d'un soluté à l'intérieur d'un solvant est tout simplement contrôlée par la loi de Stokes-Einstein indiquée ici. Okay. Et cette loi de Stokes-Einstein repose sur la loi fondamentale du mouvement brownien, ainsi que sur la loi de Stokes, qui est finalement la force exercée par un liquide sur une particule en mouvement. Mais dans ce cas, comme dans un milieu uniforme, eh bien, le potentiel énergique de l'ion lithium va rester plat, comme vous pouvez voir ici. Maintenant, si je passe dans le cas de l'électrolyte tout solide, eh bien, c'est un mécanisme totalement différent, c'est un mécanisme par saut. C'est-à-dire que le lithium va se trouver dans un site, dans un puits de potentiel bien défini, et pour aller au site équivalent, il va falloir tout simplement qu'il fasse un saut, qu'il passe par un état excité. Et bien dans ce cas, le profil énergétique va être très vallonné, et bien sûr, tout va être contrôlé par, finalement, cette barrière énergétique. Alors cette barrière énergétique, comment elle va-t-elle définir finalement la conduction ionique? Alors pour cela, eh bien, on a tout simplement le cas indiqué ici, dans lequel la conduction ionique va être égale au produit à la concentration par la charge qui multiplie la mobilité, et la mobilité va être égale à la vélocité de la migration sur le potentiel qu'on va appliquer. Alors comment on va calculer cela? Et là aussi, n'ayez crainte, je vais mettre quelques formules, mais voyez tout simplement quel est le bif de tout ça. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va tout simplement calculer une probabilité de saut qui va être définie tout simplement par le fait que cet atome va vouloir sauter. Il va y avoir une probabilité. Il va y avoir une fréquence de saut, c'est-à-dire lorsqu'il va réussir à sauter. Et de là, on peut en déduire la vélocité des ions migrants qui va être déterminée par cette relation. Vous voyez apparaître déjà le delta G. Cela, eh bien, si on traduit, si on intègre directement un sigma ion dans cette formule, eh bien, on peut voir qu'on a cette relation. Et maintenant, si on applique la relation classique delta G égale delta H plus dt delta S, je peux directement décomposer selon cette équation. Et finalement, dans ce cas, eh bien, l'énergie d'activation, ou le delta H, sera tout simplement l'énergie qu'on va considérer, puisque le delta S eh bien, sera, dans ce cas, ignoré, puisque les changements de température de configuration seront limités. Donc voilà, finalement, comment est définie cette conductivité ionique. Alors ensuite, eh bien, on va voir quels sont les paramètres qui peuvent affecter cette conductivité ionique. Et vous voyez qu'en ce cas, il y a deux termes qui sont importants, ou la charge des ions, ou à la rigueur, ce qui nous intéresse, à toujours plus un, presque après. Il y a ensuite la mobilité et les défauts. Eh bien, les défauts, ils vont tout simplement, dans ce cas, eh bien, dépendre du dopage ou des substitutions par des cations allovalents, et on verra ça par la suite. Il va y avoir aussi le désordre intrinsèque, et ce désordre intrinsèque eh bien, va être dû à certaines amorphisations, des transitions de phase, et ainsi de suite. Et bien sûr, les joints de grain, c'est des composés solides, et la taille des particules, où les défauts d'empilement au sein d'une particule vont jouer un rôle important. Ensuite, il va y avoir la mobilité, et celle-ci eh bien, va dépendre de la contrainte géométrique structurale. Vous allez voir par la suite, vous allez comprendre très facilement, de la polarisité du réseau, de la polarisabilité, excusez-moi, des interactions coulombiques, et fait, finalement du volume libre ou de la taille de l'ion. Ce qui fait que eh bien, ce fameux sigma ion va dépendre à cette énergie d'activation qui va considérer à la création des défauts ou leur migration, et là aussi l'énergie de migration sera beaucoup plus importante que celle de création des défauts. Donc maintenant on va voir comment, en tant que chimiste du solide, vous allez pouvoir agir sur ces différents paramètres. Alors le premier, ça va être celui directement de la diffusion, du chemin de diffusion. C'est-à-dire on va regarder la connectivité entre les différents polyèdres à l'intérieur d'une structure. C'est-à-dire que ces ions, ils vont devoir bouger de site octahydrique à site tétrahydrique, et ainsi de suite. Et là, eh bien, il faut voir que ces différents tétraèdres, par exemple, vont pouvoir être partager une arête ou une face. Et si deux tétraèdres partagent une face, eh bien, il sera facile à l'ion de bouger au travers de la face triangulaire. C'est pour ça que l'interaction tétrahydrique-tétrahydrique, l'énergie d'activation sera faible, et vous verrez par la suite que la plupart des conducteurs ioniques vont avoir des structures BCC dans lesquelles vous avez le lithium en site tétrahydrique. Ensuite, vous avez des chemins de diffusion qui sont encore plus compliqués, dans lesquels maintenant, je vais directement me déplacer d'un site tétrahydrique un site octaédrique en croisant finalement une zone d'étranglement et c'est la courbe que vous avez en verte. Et enfin, le pire, c'est tout simplement passer d'un site octaédrique à un site octaédrique avec seulement une arête comme élément commun. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, on va avoir dans ce chemin de diffusion, eh bien, on va tout simplement avoir des zones directement de rétrécissage ou d'élargissement, ou comme marque mentionné ici. Et dans ce cas, eh bien, on va essayer d'élargir le chemin de diffusion en jouant sur la taille, tout simplement, de l'ion. Et en mettant, en ouvrant dans ces zones d'écoulement la dimension des canaux, eh bien, on va pouvoir faciliter tout simplement la diffusion. Un autre paramètre qui va être très important va être également la polarisation ou la polarisabilité du réseau. Alors, vous avez ici une courbe qui vous montre finalement l'effet de changer la polarisation, mais là aussi, j'ai fait cet exemple pour montrer très simplement ce qui se passe. Si vous avez un ion très polarisant, comme le lithium par exemple, et vous supposez que le lithium doit se déplacer entre ces quatre charges négatives, si l'ion est très polarisant, il va tomber dans un puits de potentiel, il va se fixer à un des anions. Et dans ce cas, la conductivité sera faible. Par contre, si maintenant vous avez un ion plus gros, comme le sodium, dans ce cas, il est beaucoup moins polarisant, il va tout simplement se déplacer beaucoup plus rapidement. Et c'est la raison pour laquelle sodium bêta-alumina est un des conducteurs ioniques les plus, je dirais, importants, ayant des conductivités les plus importantes. Tout ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect qui est relié, je dirais, à ça, c'est plus ou moins la polarisabilité, qui consiste tout simplement à regarder les interactions électrostatiques, où maintenant, eh bien, on va tout simplement changer l'électronégativité du métal, et en changeant cela, on va tout simplement changer l'ionocovalence de liaison, c'est un peu le genre d'effet inductif que vous avez vu dans le passé, où, dans ce cas, eh bien, plus l'attraction sera faible, eh bien, plus on aura de mobilité, par contre, plus l'attraction sera importante, eh bien, moins on aura de mobilité. Et enfin, et certainement le cas le plus étudié est celui où on va faire des substitutions au niveau des cations, en remplaçant des cations divalents par des cations trivalents ou tétravalents, ce qui va entraîner en même temps la création de lacunes, c'est-à-dire de porteurs pour les ions lithium ou de chemins de diffusion. Et cela peut se faire, je dirais, non seulement au niveau des cations, mais on peut également agir au niveau des anions. Donc voilà, si vous voulez, toutes les règles qu'il faut savoir pour dessiner de meilleurs conducteurs ioniques. Alors, pour justifier certaines de ces règles, eh bien, je vous ai mis ici certains résultats qui ont été obtenus, dans lesquels je vous montre tout simplement l'effet de la valence du cation, où, dans ce cas, on regarde un conducteur ionique du type lithium 2SO4 à 550 degrés C, et on voit que lorsque la valence directement passe de 1 à 2 ou à 3, eh bien, vous voyez que la conductivité ionique eh bien, diminue. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, l'activité ou l'énergie d'activation va dans le sens opposé. Tout ça, c'est l'effet de la valence sur l'ion. On peut regarder également l'effet de la taille. Et là, ce que vous voyez ici, c'est différents cations avec monovalent, dans lesquels vous prenez lithium, sodium, argent, potassium et rubidium. Donc là, si vous voulez sodium, est plus petit que l'argent, que le potassium, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, la courbe eh bien, passe par un maximum. Et cela, c'est exactement le schéma que j'ai mentionné auparavant, c'est-à-dire que le sodium a la taille requise pour pas trop directement se fixer l'anion, alors que le lithium l'a. Et par contre, maintenant, si vous utilisez des cations de taille supérieure, eh bien, automatiquement, ils vont avoir du mal à passer dans la cavité. D'où cette courbe est relativement, je dirais, logique, si on raisonne sur la taille des cations. Et enfin, il y a l'effet du volume libre par lithium, où dans ce cas, eh bien, on peut ajuster, notamment dans le cas des structures de type nasicon, vous avez plusieurs métaux, on peut ajuster les différents métaux, les différents rapports, et changer le volume libre associé tout simplement au lithium. Ça veut dire finalement, ça va, le degré de liberté, ou le nuage électronique du lithium, si je peux dire. Et dans ce cas, ou plutôt la zone de déplacement du lithium. Et dans ce cas, on s'aperçoit finalement qu'on a une augmentation, je dirais, de la conductivité ionique avec l'augmentation du volume libre du lithium, et bien sûr, l'énergie d'activation va en sens inverse. Tout ça, c'est des variations que l'on trouve. Ensuite, on peut regarder sur la nature, je dirais, cristallographique des différents composés. Et là, généralement, lorsqu'on passe de matériaux tricristallins à des matériaux plus amorphes, comme les verres, il y a une augmentation de la conductivité ionique. Et tout ça, c'est un débat, ou c'est plutôt des questions que je vais rappeler souvent, dans lesquelles aujourd'hui, on va utiliser souvent le broyage métallique, ou le broyage mécanique, excusez-moi, pour, dans ce cas, eh bien, créer des défauts dans les matériaux et finalement tendre vers la monophysation. Et enfin, un dernier aspect, c'est tout simplement dans ce cas, eh bien, l'importance de l'anion. Vous voyez qu'ici, dans ce cas, on a des conducteurs ioniques qui sont tout simplement à base de silicate, en rouge. Et vous voyez que maintenant, si je prends dans les mêmes formules, les mêmes matériaux, maintenant à base de soufre, eh bien, on va obtenir de meilleures conductivités ioniques. Okay? Et ça, eh bien, ça sera répété dans les différentes familles que l'on verra par la suite. Ensuite, bien sûr, un autre point qui est important, c'est qu'il y a le mélange des différents anions, où ici, vous voyez qu'en faisant un mélange, je dirais, de silicate et de composés soufrés ou de sulfure, eh bien, on peut également augmenter la conductivité ionique, et tout cela, c'est dû à un désordre à l'échelle locale. Donc voilà, si vous voulez, toutes les règles qui sont utilisées lorsqu'on va dessiner ou construire les matériaux. Et tout cela, eh bien, a conduit à toutes ces recherches qui sont en train de proliférer aujourd'hui sur différents types de conducteurs ioniques, les différentes familles, que sont les sulfures, les oxydes ou les halogénures, avec une famille récente qui sont les oxyhalogénures, comme mentionné ici. Eh bien, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais directement aller dans chacune de ces familles de matériaux et vous montrer là aussi ce qui s'est passé, quelles sont les structures et quels sont les matériaux les plus intéressants pour construire les batteries tout solides. Alors cette recherche, je dirais, sur tous les matériaux nouveaux a été très prolifique. Par contre, eh bien, une fois de plus, je dois souligner que eh bien, la difficulté va venir des interfaces et comment on va pouvoir, je dirais, interconnecter ces électrolytes solides avec tout simplement des matériaux d'électrodes positives et d'électrodes négatives. D'où, c'est ainsi que je vais commencer maintenant le cas des oxydes en partant tout simplement du composé de type nazicon. Alors ce composé de type nazicon, comme vous pouvez voir ici, eh bien, est un composé dont la structure est indiquée ici, structure qui dans ce cas est une structure rhomboédrique, mais qui est formée d'unités bien spéciales qu'on dénomme les lanternes, pour la bonne et simple raison que vous avez ici trois tétraèdres connectés à deux octaèdres en forme de lanterne. Ces lanternes, chacune de ces lanternes est entourée par six autres lanternes qui vont, dans ce cas, délimiter des canaux à l'intérieur de la structure, à l'intérieur desquels les ions sodium vont occuper des sites prismatiques, trigonaux ou octaédriques. Et ce qui est important, c'est qu'en cette structure, eh bien, on peut changer presque indéfiniment, si je peux dire, la nature du métal, mais également la nature de l'anion. C'est la raison pour laquelle on va avoir des quantités de nazicon que l'on va voir par la suite. Et alors, ces matériaux sont relativement intéressants. Bon, bien sûr, ils ont, comme on peut voir ici, une très bonne conductivité ionique, avec une réactivation relativement faible, mais surtout, c'est d'excellents conducteurs électroniques, ce qui est très important, comme je l'avais dit auparavant, pour l'autodécharge. Et cette conduction électronique très faible provient tout simplement que vous n'avez aucune liaison MOM du fait de l'isolement des différents polyèdres dans cette structure. Alors, ces matériaux, bien sûr, sont avec le sodium, et après, je dirais, la découverte de ces matériaux, ou plutôt, ce n'est même pas une découverte, parce que ces phases existaient auparavant, mais c'est John Goodenough qui a été le premier à identifier ces matériaux comme de bons conducteurs ioniques. D'où, quelques années ont suivi, et bien sûr, les chercheurs se sont inspirés de ces travaux pour dessiner, construire des composés qui, dans ce cas, sont des nazicons, mais qui contiennent du lithium. Et vous avez ici des phases, comme indiqué ici, la phase lithium 3, aluminium 0,3, TiO 7, PO4, 3 fois, qui a une maille hexagonale, qui consistait finalement de tétraèdres PO4 qui sont joints à des octaèdres MO6 par des sommets, et au sein duquel le lithium va occuper deux types de sites qui sont des sites octaédriques ou des sites et d'autres sites octaédriques déformés. Ces matériaux ont une très bonne conductivité ionique de 3 millisiemens. Ils ont été commercialisés par la compagnie O'Hara aux États-Unis. Mais, par contre, la grande difficulté, bien qu'ils soient stables à l'humidité, eh bien, automatiquement, il y a un problème, c'est que le titane, dans ce cas, est un composé, est un élément 3D. Le titane a plusieurs états d'oxydation, et lorsque vous allez exposer ces matériaux avec le lithium, il va y avoir une réduction à l'électron négatif, d'où, automatiquement, si vous l'utilisez de tels matériaux pour les batteries tout solides avec le lithium, il va falloir tout simplement insérer une couche tampon pour tout simplement minimiser cette réaction ou cette réduction à l'électron négatif. Ensuite, eh bien, une autre famille de matériaux qui a été beaucoup utilisée, ou qui est utilisée, que vous connaissez certains d'entre vous très bien, autant parce que c'est les grenats que vous trouvez en bijouterie, mais surtout pour les propriétés magnétiques, car ce sont des composés ferrimagnétiques, mais également ce sont des composés très intéressants au niveau de la conduction ionique. Les phases de départ sont des phases de silicate. On peut avoir dans ce cas deux types de structures, une structure tétragonale et une structure cubique, et bien sûr, il se trouve que c'est la structure cubique, rappelez-vous, je mentionnais les sites BCC, qui est la plus intéressante d'un point de vue, je dirais, conduction ionique. Et effectivement, si vous prenez cette phase, vous amusez à faire des substitutions au niveau du métal, eh bien, vous pouvez obtenir la structure du grenat qui est le plus utilisé aujourd'hui, qui est la phase lithium 7, lanthanum 3, ZR2, O12, qu'on appelle dans notre jargon LLZO. Cette phase a une structure cubique dans laquelle le zirconium et le lanthane vont avoir des coordinations 6 et 8, et dans lequel le lithium, une fois de plus, aura deux types de coordination, et on verra par la suite. Et ces matériaux sont relativement intéressants pour leur conductivité. Ils se font en température, ils ont un module d'ion élevé. La seule difficulté, eux, c'est qu'ils sont, ils vont être réagir avec l'humidité ou une décomposition à température ambiante pour directement conduire à du dioxyde de lithium et du carbonate. Et ça, c'est une difficulté aujourd'hui, alors que ces matériaux ont une stabilité, je dirais, excellente vis-à-vis du lithium. Enfin, les deux derniers composés dont je voudrais vous mentionner, eh bien, c'est tout simplement les perovskites de type AB3, structure qui là aussi présente des chemins de diffusion relativement intéressants. Vous reconnaissez la structure perovskite, vous voyez ici les canaux de diffusion pour le lithium qui vont passer directement entre ces espaces. Structure dans laquelle on va augmenter par des substitutions halieuvalent le nombre de lithium et avoir certaines lacunes. Dans ce cas, on a une forte stabilité en oxydation, mais la difficulté, une fois de plus, c'est un conducteur mixte élevé et qui va être peu stable en réduction avec le lithium, car il va y avoir une décomposition. Et une fois de plus, comme vous pouvez voir ici, dans ces matériaux, il y a le titane. Et enfin, la dernière famille de composés, c'est la famille des composés des lysicones. Alors faites attention, nasicone et lysicone, ce n'est pas la même chose. C'est le lithium-ion super-ionique conducteur, mais dans ce cas, les structures sont totalement différentes que dans le cas du nasicone. C'est une structure qui, je dirais, dérivée de la phase gamma lithium 3PO4, dans laquelle tous les cations sont des sites tétrahydriques qui partagent sommet et arête. Et on passe directement de la phase gamma lithium 3PO4 au lysicone, qui est la phase lithium 3,5 ZN025GO4, en remplaçant tout simplement du lithium par des atomes de zinc et des atomes de phosphore par le germanium. Et on obtient ces composés indiqués ici, qui ont une conductivité, alors regardez ici, faites attention, 10 puissance 2, je crois, à Siemens par centimètre moins 1, mais à 300 degrés C. À température ambiante, ces conductivités sont beaucoup plus faibles. D'où ces matériaux, je dirais, ces deux derniers matériaux, sont très peu utilisés pour les conducteurs ioniques. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur tous ces conducteurs ioniques, en vous donnant les règles, tout d'abord, de la conduction ionique, et ensuite, comment on pouvait, finalement, synthétiser notre phase avec des bases ou des concepts relativement intéressants et communément utilisés. Et alors, je voudrais terminer sur ce cours par une nouveauté dans le domaine au niveau de la conception des conducteurs ioniques. Et pour cela, eh bien, pour introduire ce nouveau domaine, je vais tout simplement vous rappeler brièvement ce qu'on a raconté, c'est qu'on a utilisé les aspects structuraux, notamment la symétrie, l'environnement, la connectivité, la tolérance à la distorsion, et ainsi de suite, pour dessiner de nouveaux conducteurs ioniques. Et dans ce cas, on peut, grâce à cela, avoir des chemins de diffusion énergétique peu vallonnés et augmenter, je dirais, la conduction ionique. Mais une pratique aussi consiste, je voulais mentionner, c'est que si vous avez fait attention à tous les matériaux dont je vous ai mentionné, eh bien vous apercevez que le lithium, il est 1 plus X, le lithium 7, 3X, on est en train de préparer des matériaux dans lesquels on va toujours mettre plus de lithium pour entraîner du désordre et une plus grande mobilité. Alors une question qu'on peut se poser finalement, c'est comment on pourrait introduire du désordre dans ces matériaux. Et ce qu'on va voir maintenant, eh bien, on va voir comment, en utilisant des mélanges de cations métalliques, on peut augmenter le désordre dans ces matériaux et la conduction ionique. D'où on va parler maintenant, ce qui est à la vogue aujourd'hui, c'est ces fameux matériaux à haute entropie. Alors ces fameux matériaux à haute entropie, eh bien là aussi, comme souvent dans le domaine des batteries, on croit que c'est une nouveauté, mais ce n'est pas du tout une nouveauté, c'est, je dirais, des approches qui ont été développées de cela d'une vingtaine d'années dans le cas des alliages. Et qu'est-ce qu'on appelle un matériau? Pourquoi un matériau à haute entropie? Mais ça vient tout simplement du fait, d'une observation, que lorsqu'on prend un alliage, eh bien, plus on augmente le nombre d'éléments à l'intérieur de cet alliage, plus on a de chances d'obtenir des phases uniques. Et cela, eh bien, on peut le faire dans les alliages, mais également il y a des structures qui sont propices à cela, et des structures pérovskites, des structures rock-sol, et ainsi de suite. D'où par conséquent, eh bien, on va essayer de regarder ce que l'on peut faire au niveau des conducteurs ioniques en utilisant, je dirais, ce concept de matériaux haute entropie. Alors les matériaux haute entropie sont définis de façon arbitraire, un matériau dans lequel vous allez pouvoir mettre 5 éléments dans un même site. On définit 5, vous allez voir par la suite, on peut en avoir 3 ou on peut en avoir 7, ça ne va pas obliger d'être un matériau haute entropie. Et finalement, on va définir une entropie de configuration qui va être nécessaire pour avoir théoriquement ces matériaux haute entropie qui est la valeur 1,5R ou 1,6R. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, lorsqu'on joue avec l'entropie, on ne fait rien d'autre, jouer qu'avec cette simple relation delta G égale delta H T altesse. C'est-à-dire qu'on va, dans ce cas, jouer pour la température et on va synthétiser des phases métastables qu'on va pouvoir directement tremper et obtenir à température ambiante. D'où, par conséquent, vous voyez que maintenant, eh bien, c'est formidable. Vous avez des structures, par exemple, AB2O4. Vous avez, si vous mettez 5 éléments en A et 5 éléments en B, vous pouvez faire une soupe de matériaux ou une soupe de composition pour espérer obtenir finalement la seule face. Alors cela, ça peut être intéressant puisque finalement, lorsqu'on va mettre tous ces éléments dans un même site, on va entraîner des distorsions locales, il va y avoir ce que j'appellerais l'effet cocktail, et tout cela, eh bien, ça va conduire tout simplement à, comme on peut voir, abaisser cette fameuse barrière énergétique dont j'ai mentionné. Et c'est-à-dire que dans ces matériaux haute entropie, eh bien, cette barrière énergétique, vous voyez, va être diminuée, associée au désordre qu'on va créer, à la distorsion qu'on va créer locale dans ces matériaux. Alors bien sûr, lorsqu'on parle maintenant de ces matériaux haute entropie, c'est-à-dire préparer une phase avec 10 éléments, il va falloir être capable de savoir ce qui se passe à l'échelle locale. Et c'est-à-dire que là, eh bien, il va y avoir également une exploration, je dirais, très approfondie, de la structure locale de ces matériaux pour être vraiment sûr qu'on a tout simplement un matériau haute entropie et comment on va déterminer ou découpler un matériau haute entropie d'un matériau ou d'une simple solution solide. Donc c'est pour ça qu'on va, regarder ici, par différentes techniques qui sont mentionnées ici, à l'échelle de l'angstrom, à l'échelle de la centaine d'angstrom et à l'échelle directement de 1000 angstrom pour comprendre ce qui se passe. Ok ? Et ça, c'est les techniques qui vont être utiles. Alors finalement, je vous ai parlé de ce chiffre 1,5 ou 1,6R. D'où ce chiffre vient? Alors là aussi, un petit peu, bon, très simple des équations. Hein. Dans ce cas, on va calculer l'entropie, où l'entropie, c'est défini par la loi de Boltzmann, qui est S égale KB log d'oméga. Eh bien, oméga, c'est quoi? Oméga, c'est le nombre de combinaisons, c'est-à-dire qu'on a, pour mettre directement X atomes dans N sites. Et cela, eh bien, est donné par le produit factoriel indiqué ici. Donc si on fait tout simplement, et on résout ces équations, eh bien, on s'aperçoit que la configuration entropique est égale à la relation indiquée ici, R log de cette factorielle, qui finalement se ramène à un terme relativement simple, qui est moins R, somme des X log de X. Ça veut dire sur la somme des différents composants. Alors dans ce cas, eh bien, on peut faire directement le calcul, où on prend une structure dans laquelle on va mettre différents cations dans un site cationique, et à la rigueur, différents anions. Et si je fais tout simplement le calcul dans le cas où je vais mettre différents cations, 5 cations dans un site cationique, vous voyez qu'ici je peux mettre le nombre de composants, et vous voyez ici, dans ce cas, 5 composants, et dans ce cas, le maximum de l'entropie de configuration. Et on arrive à cette valeur de 5, où on a défini finalement cette fameuse entropie de configuration de 1,61R. Et c'est ça, je dirais, cette borne qu'on va définir pour définir empiriquement qu'un matériau est à haute entropie, c'est-à-dire stabilisé par tout simplement l'entropie. Et on verra qu'on peut avoir directement des matériaux qui n'ont pas une entropie de configuration importante et qui pourront également être stabilisés par haute entropie. Alors bien sûr, ça c'est le cas où je fais des calculs relativement simples et je suppose que toute unité est uniforme dans mon réseau, mais bien sûr, l'uniformité n'est jamais de rigueur, puisqu'on peut avoir la formation de clusters ou également la formation de connexions de connexions à courte distance, comme indiqué. Et cela, bien sûr, va modifier ce facteur entropique. Ensuite, on peut avoir des situations, rappelez-vous, j'ai mentionné qu'on avait des spinels. Vous savez très bien qu'en un spinel, il y a deux types de sites, des sites tétrahydriques et des sites octahydriques. Dans ce cas, on peut avoir, dirais, le cas idéal où tout va se répartir de façon identique dans les sites tétrahydriques et dans les sites octahydriques, mais la probabilité est relativement faible, puisque on sait très bien dans ce cas qu'on a un champ cristallin, et le champ cristallin va quand même gouverner la répartition des cations en sites tétrahydriques et en sites octahydriques. Comme quoi, là aussi, il faudra être très prudent pour utiliser ce concept. Alors ce concept, pour le rendre plus simple peut-être, c'est quoi? Eh bien, on repart sur cette équation, bon, delta G ou delta G égale H moins TS, et ça veut dire qu'en ce cas-là, pour faire une réaction, delta G doit être négatif. Ça veut dire qu'en ce cas, si vous regardez directement la contribution entropique, elle va augmenter avec la température. D'où, on est en train de regarder ici des phases stabilisées par entropie ou des phases stabilisées par enthalpie dans lesquelles le terme entropique ne surpasse pas ou il n'y a pas un croisement. D'où, ces matériaux, eh bien, qu'est-ce qu'on, pour les faire, eh bien, généralement, on peut chauffer ces matériaux, on arrive à cette température et on va les tremper de façon tout simplement à garder la phase stabilisée par entropie. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut arriver à déterminer comment entre une solution solide et finalement des matériaux à haute entropie. Ce qu'on fait généralement, c'est que vous faites vos phases à haute température et ensuite vous refroidissez, et bien là vous apparaissez directement des pics de diffraction qui sont associés au diagramme de diffraction X des précurseurs. Et vous réchauffez, et bien vous retombez directement dans votre phase haute entropie. Donc voilà, si vous voulez, comment ces matériaux peuvent être synthétisés. Alors, pour faire cela, comme vous avez vu, ces règles sont quand même relativement empiriques. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on peut essayer de faire de pair, excusez-moi, une classification. Voilà, une classification dans laquelle je vais mettre en ce cas deux observables qui vont être l'entropique, la stabilisation par entropie et l'entropie de configuration. Et vous voyez qu'en ce cas, où ces deux observables sont très faibles, eh bien, on a une solution solide. Par contre, vous voyez qu'ici, je peux avoir une très haute entropie de configuration et je peux avoir une solution solide. Et ça, c'est le cas des phases, par exemple, dans laquelle j'ai un cation métallique et je vais y mettre 5 ou 6 terres rares. Et 5 ou 6 terres rares, elles sont relativement difficiles à différencier car, finalement, elles ont des électrons de valence qui sont directement très profonds. Par contre, vous voyez ici, j'ai maintenant une entropie de configuration relativement faible alors que ces phases sont stabilisées par entropie. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'dans ce cas, eh bien, par exemple, on prend 3 éléments ou 4 éléments, si je prends du titane, zirconium, je peux mettre également dans ce cas de l'étain et du germanium, eh bien, je peux obtenir une structure qui est différente de la structure de chacun de ces composants. C'est-à-dire que si je mélange les quatre, je vais obtenir une structure du type alpha-PbO2 qui est totalement différente des structures des composants pris individuellement. Et là, j'ai une phase qui est tout simplement stabilisée par entropie, alors que son entropie de configuration ne dépasse pas les 1,6 R. Et enfin, bien sûr, dans ce cas, où on gagne à tous les coups, c'est-à-dire que si on est dans ces composés avec les oxydes et les rock salts, on a souvent de ces phases. Donc voilà, si vous voulez, et ça, c'est une approche qui va être, je dirais, utilisée dans tous les conducteurs ioniques que je vais mentionner par la suite. Que ce soit les oxydes, les sulfures, les halogénures, vous allez voir que tout le monde s'amuse à tout mélanger pour essayer d'arriver à avoir la bonne conduction ionique. Alors, deux exemples ou un exemple, et là, je vous montre directement des travaux de Seder, qui a appliqué ça bien aux oxydes, aux matériaux de type nazicon, comme vous mentionnez ici, okay, et aux matériaux directement des grenades, comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, vous voyez les différents éléments qu'il met dans cette. Et vous voyez qu'il obtient des diagrammes de diffraction X, qui sont des diagrammes de diffraction X de composés monophasés, qui ont une structure dans ce compte-là, vous avez R3-C, ou alors dans la structure cubique des grenades. Et vous voyez que si on fait directement du mapping par IDX, on obtient parfaitement, ou parfaitement. On voit finalement qu'il y a une répartition uniforme des différents éléments. Alors bien sûr, la question qui se pose, bon, à quoi ça sert? Et est-ce qu'on a vraiment l'effet de cette conductivité ionique, c'est-à-dire de moyennisation ou de minimisation de la barrière énergétique? Bien oui, si on regarde finalement ces composés, vous avez ici différentes phases, et vous voyez les trois composés dont je mentionnais auparavant, qui sont des matériaux haute entropie, mais tous présentent une conductivité ionique qui surpasse les matériaux à un, deux ou deux éléments. Okay? Alors bien sûr, comme c'est sévère, il faut qu'il fasse la théorie, d'où, dans ce cas, il a fait la théorie, il a regardé finalement la répartition, je dirais, de ou l'influence de ce matériau haute entropie, c'est-à-dire la distorsion. Il a fait des calculs pour montrer que plus on augmente la distorsion, bien vous voyez, plus on va tout simplement réduire la hauteur des collines, si je peux dire, entre les différents sites. Okay. Et c'est ce que vous voyez ici, et la raison pour laquelle ces matériaux présentent des conductions ioniques. Et enfin, il a fait des calculs pour montrer également que dans les mêmes séries de matériaux, vous avez ici les terres rares, où on peut, dans une même série de matériaux, eh bien, avoir des changements drastiques associés à ces matériaux haute entropie. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe dans le domaine et ce que je dirais devient très populaire au niveau de la synthèse en chimie inorganique, que ce soit pour les conducteurs ioniques, que ce soit pour les matériaux d'électrodes, je dirais c'est la nouvelle mode et c'est la nouvelle vague. Donc voilà. Et avec ça, eh bien, je voudrais terminer la présentation et vous remercier pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.